avec Benoît Marchal.
Bienvenue pour le 94e épisode de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu.
Trois segments dans cet épisode, comme d'habitude. L'édito, je vous donnerai les dernières nouvelles pour la centième. Le deuxième segment, qui est une discussion sur les formats de fichiers. Et le troisième segment, avec vos commentaires et vos réactions. Notez dès à présent l'adresse du blog, www.déclencheur.com. C'est là que vous pourrez retrouver tous les liens de l'épisode, les réactions, poster un commentaire. C'est là également que vous pourrez vous inscrire pour la centième ou commander des badges ou des cartes promo. Premier segment avec des nouvelles de la centième. Donc l'enregistrement public, c'est dans 2 semaines. Donc vous vous en doutez, ici au quartier général intergalactique de Déclencheur, la pression monte. Cette semaine, on a reçu des badges, parce qu'il y aura des badges spéciaux centième pour tous les participants. On a également reçu des kakémonos, les décorations qu'on va utiliser pendant l'enregistrement. Et on a continué à se préparer d'un point de vue audio-vidéo. Ça s'annonce très bien, le sujet est passionnant, la photo panoramique, l'invité également, Arnaud Frisch. Donc ce serait vraiment dommage de manquer ça. On vous demande, si vous voulez participer, de passer vous inscrire sur le blog www.déclencheur.com. C'est complètement gratuit, mais ça nous permet de gérer un petit peu les choses. Et à ce propos, la salle commence à se remplir, donc si vous êtes intéressé, ne tardez plus trop à vous inscrire. J'adresse encore une fois de très chaleureux remerciements à toute l'équipe qui vraiment donne un grand coup sur la centième. Et puis également à nos sponsors, sans qui il ne serait pas possible de réaliser l'événement, Miss Numérique, questionphoto.com et profilicc.com. Deuxième segment, une discussion avec mon ami Nicolas Esposito sur les formats de fichiers. C'est un sujet qui paraît simple, mais c'est aussi un sujet assez technique. Et en voyant les questions qu'on reçoit, Nicolas et moi, on s'est dit que ça valait la peine de faire le point sur ce sujet. On démarre en douceur avec des thèmes qui vous seront plutôt familiers si vous faites de la photo numérique depuis quelque temps. Et puis on termine avec des thèmes plus complexes, plus techniques, notamment en matière d'archivage. Cet épisode, on l'a enregistré en extérieur pendant le salon de la photo. Salut Nicolas !
Salut Benoît !
Comment tu vas, dit ?
Ah super bien, il fait beau en plus, donc tout va bien.
Bah oui, on est bien, on est au salon de la photo et on en profite pour s'enregistrer un petit épisode. Et on va parler d'un sujet sur lequel on reçoit pas mal de questions, c'est les formats des fichiers.
Exactement, et la question qu'on va se poser en particulier, c'est quel format pour quels usages ? C'est-à-dire qu'on va se demander finalement quel est le cycle de vie de nos images et en particulier on va s'intéresser à l'acquisition des données, c'est-à-dire quand on prend les photos, quel format de travail on va utiliser, quel format d'échange à différents moments on pourra utiliser, quel format de publication on va choisir et puis enfin pour l'archivage, vers quel format on va aller.
Alors pour comprendre en final les formats photos, il y a quand même quelques notions qu'il faut comprendre d'abord. Et la première de ces notions, je crois, à comprendre, c'est la compression. La compression, on reconnaît bien, hein, c'est zip, ça veut dire qu'on prend son fichier, hop, on a un fichier beaucoup plus petit. Mais ce qui est un petit peu parfois troublant, c'est la différence entre la compression avec perte et la compression sans perte.
Oui, alors effectivement, la compression avec perte, on ne peut pas s'en servir sur les documents de bureautique, en particulier là où on a du texte, tout simplement parce que dans un texte, on ne peut pas enlever de lettres. Voilà. Alors que dans une image, on peut perdre un petit peu d'information sans que ça ne pose de problème visuel majeur. On appelle donc ça la compression destructive. Et ça veut dire qu'on fait des concessions en termes de qualité. Si on fait des compressions minimes, on ne verra pas forcément la différence. Si on fait des beaucoup plus grosses compressions parce qu'on a envie de passer dans des tuyaux sur le web peut-être, qui vont être tout petits, à ce moment-là, on va voir effectivement la différence. Et ça s'oppose, comme tu le disais tout à l'heure, à la compression sans perte, donc qu'on va aussi dire non destructive, où cette fois-ci, on conserve toute l'information, on ne perd rien, on ne jette rien, tout simplement parce qu'on a envie de travailler à de multiples reprises sur la même image. On va la réenregistrer peut-être toutes les demi-heures. Et à chaque fois, on a envie, quand on réouvre le fichier, de récupérer absolument toute l'information. Parce que si on perdait de l'information à chaque fois qu'on enregistre, il nous resterait plus grand-chose à la fin.
Deuxième notion à comprendre, c'est évidemment les formats de fichiers. Hein. Et je propose qu'on passe en revue les formats dans l'ordre dans lequel on travaille avec la photo. Et donc ça veut dire que le point de départ, en final, ça va être le fichier RAW, puisque toi et moi, on est grands amateurs et grands utilisateurs de RAW.
Tout à fait.
L'avantage du RAW, on en a déjà parlé plein de fois, c'est de conserver vraiment toutes les données que l'appareil photo a prises, et donc d'avoir toute l'attitude de traitement par la suite. Encore que, un certain nombre de fabricants maintenant offrent des RAW compressés destructifs, c'est-à-dire qu'ils éliminent dans le RAW un certain nombre d'informations qui sont jugées pas indispensables pour le développement de la photo par la suite.
Effectivement, on peut aussi noter que pour le format RAW, on est au-delà des 8 bits qu'on a en JPEG, donc en termes de quantité d'informations, on en a aussi beaucoup plus en termes de précision.
Donc, le petit inconvénient quand même des formats RAW, c'est que c'est la plupart du temps des formats propriétaires. Donc, ça veut dire que les spécifications des formats ne sont pas publiées. Donc, ça limite les logiciels avec lesquels on va pouvoir travailler dessus. Et un petit peu en réponse à ça, Adobe a proposé le format DNG.
Exactement, le format DNG pour Digital Negative, qui est un format que chacun peut utiliser. On le retrouve d'ailleurs dans certains appareils photo. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'à côté de vos fichiers RAW ou de vos fichiers DNG, vous aviez un fichier .xmp pour chacune de vos images. Ce sont des données additionnelles, des métadonnées qui vont concerner principalement les réglages que vous allez faire après coup. Et en particulier, si vous changez la balance des blancs, vous n'allez pas toucher au fichier RAW d'origine. Il y a simplement un petit fichier XMP qui va être créé à côté et qui va dire « j'ai modifié la balance des blancs ». Tout comme le format DNG, le format XMP est un format géré par Adobe.
Tant qu'on est sur Adobe, justement, l'étape suivante, qu'on ne va pas nécessairement toujours faire, mais l'étape suivante, ça peut être de charger la photo dans Photoshop. Et là, évidemment, le format de sauvegarde normal de Photoshop, c'est PSD. On va enregistrer l'image d'abord sans perte. On peut stocker toute une hiérarchie d'informations qui peut être assez complexe. Et depuis l'introduction de Photoshop CS3, dedans, on peut trouver des objets dynamiques, on peut trouver des filtres dynamiques. Il est clair qu'une version de Photoshop plus ancienne, c'est par lire ces informations-là, parce qu'elle n'a pas les algorithmes pour appliquer ces traitements-là. Et donc, on a souvent l'option d'enregistrer l'image complète avec toutes ces informations de traitement, ce qui est très utile si derrière on veut reprendre l'image et corriger le traitement. On se rend compte que le fil dynamique, on l'a appliqué trop fort, on veut mettre un peu d'opacité dessus. Mais pour de l'échange d'informations, quand on ne sait pas quel est le logiciel avec lequel on traite en face, il est souvent plus intéressant d'enregistrer une image aplatie, c'est-à-dire une image sur laquelle on va appliquer tous les traitements et on enregistre le résultat des traitements. Et donc là, on a la certitude que quand un autre logiciel plus ancien ou moins équipé va ouvrir cette image, il arrivera lui aussi à la décoder complètement. Adobe nous propose une alternative qui est le formatif. Le petit souci du formatif, c'est que c'est un format qui est extrêmement flexible, extensible. Et donc, en final, oui, on peut tout stocker dedans, mais on n'est pas certain que tous les logiciels sauront tout relire. Et il n'y a vraiment que Photoshop qui est capable de relire toutes les choses qu'il a stockées dedans. Donc, ce qu'on va plutôt généralement faire quand on enregistre en TIFF, c'est parce qu'on va envoyer sans perte un fichier qu'on a aplati. Si on enregistre un TIFF avec des calques complexes, on a des chances qu'un autre logiciel ne sache pas les relire.
Effectivement.
On continue sur les formats Adobe et on arrive au format PDF. Autant PSD et TIFF sont plutôt des formats de travail, PDF, ça devient déjà plutôt un format de distribution. Un des avantages, c'est qu'on va pouvoir y mettre plusieurs photos dans un seul fichier. Donc ça peut être assez pratique.
On peut en arriver justement au format de publication et en particulier par le format JPEG. Donc le format JPEG, c'est un format qui, à la base, est prévu pour enregistrer et publier des photos. Ça veut dire qu'on va se limiter à 8 bits et ça veut dire aussi qu'on va faire de la compression avec perte parce qu'on veut éventuellement publier sur des endroits où on n'a pas beaucoup de place. Alors on peut parler d'un autre format de publication qui est le format GIF qui a tendance à plutôt disparaître sur le web. C'est un format au départ qui permet d'enregistrer des images sans perte, contrairement donc au format JPEG, mais qui lui se limite à 256 couleurs. Alors, il a l'avantage de permettre de la transparence, ce que ne permet pas le format JPEG, et aussi de permettre les animations. Un autre format du web, c'est le format PNG, qui, tout comme le format GIF, propose d'enregistrer les images sans perte. Et cette fois-ci, on a un petit peu plus qu'une simple transparence, on a ce qu'on appelle une couche alpha, c'est-à-dire que pour chacun des pixels, on peut déterminer précisément le pourcentage de transparence, donc ça peut être plus ou moins transparent. Par exemple, une ombre portée. Le format PNG, on peut dire que c'est un format libre dans la mesure où tout le monde peut l'utiliser librement. À l'opposé, il y a des formats complètement propriétaires. On a parlé tout à l'heure des formats RAW propriétaires. À ce moment-là, on n'a pas accès aux spécifications du format. Ça veut dire que si on veut lire et écrire dans ces formats, on est obligé de faire du rétro-engineering.
Parce que le gros inconvénient pratique de la rétro-ingénierie, c'est qu'il y a des choses qu'on arrive à deviner, il y a des choses qu'on n'arrive pas à deviner. Et on sait que dans les fichiers propriétaires RAW, il y a certains champs qui ne sont pas accessibles en fait au logiciel, qui ne sont pas le logiciel du fabricant.
Exactement.
Quand on pense libre, de plus en plus, on pense évidemment logiciel libre. Et on pense à toute la mouvance qui est derrière, qui est contre un certain nombre de pratiques de propriété intellectuelle, dont notamment contre les brevets, etc. Et il y a effectivement
un certain nombre de cas entre l'extrême du propriétaire et le calibre, qui sont tous les cas où des spécifications ont été publiées, parfois même par des organismes de normalisation, mais ne peuvent pas être utilisés sans prendre une licence ou sans acheter la spécification. Le format peut être lu par n'importe quel applicatif. Pour certaines applications, c'est la seule chose qui compte. Mais il n'est pas libre au sens de la communauté libre parce qu'il y a des droits de propriété intellectuelle qui s'appliquent dessus. Maintenant qu'on a vu un petit peu les formats, on va quand même regarder quelques propriétés de la sortie maintenant.
Et on peut commencer par ce qu'on peut appeler de manière générale la qualité. Dans la qualité, il y a la résolution. Et c'est vrai qu'on fait souvent la différence entre la résolution écran et la résolution papier. Au départ, la résolution écran, on l'a prise à 72 points par pouce parce que c'était environ ce qu'on avait sur les écrans à une époque. Aujourd'hui, il est clair que les écrans ont largement dépassé cette résolution de 72 points par pouce. Néanmoins, quand on prépare des images pour le web, par exemple, en général, on continue à indiquer la résolution 72 points par pouce. La résolution papier correspond à 300 points par pouce. Tout simplement parce que c'est le nombre de points par pouce nécessaire pour que, à une distance normale de visionnage d'une photo, on ne voit plus les petits points, donc les pixels d'une image. Si on prend l'exemple d'une page A4, pour une résolution de 72 points par pouce, ça nous fait environ 0,5 million de pixels, alors que pour une qualité papier, donc 300 points par pouce, on atteint 8 millions de pixels. Bien sûr, cette résolution, elle est à mettre en perspective avec la distance à laquelle on regarde une image. Si vous voulez faire une impression A4, si votre appareil va jusqu'à 5, 6 ou 7 millions de pixels, vous allez vous rendre compte que c'est suffisant. Pourquoi c'est suffisant ? Parce que la feuille A4, vous allez la regarder d'un petit peu plus loin qu'une photo 10-15. Donc, par rapport à cette notion de résolution, il faut bien prendre en compte la distance de visionnage.
L'exemple typique de ça, c'est l'affiche. Ces gigantesques affiches comme on en a derrière nous, tu t'approches tout près, elles ne sont pas à 300 dpi, elles ne sont pas à 300 points par pouce. On voit très bien les points, mais comme on les regarde depuis plusieurs mètres, en fait, on ne s'en rend même pas compte.
Ce qui est important de noter aussi par rapport à la résolution, c'est que c'est juste une information qu'on rajoute sur une image, mais qui ne change en rien la nature de l'image. C'est-à-dire qu'il y a la taille en pixels de l'image, et pour savoir à quelle taille on va pouvoir l'imprimer ou la visionner, on va se demander quelle va être la résolution du périphérique de sortie, en l'occurrence l'imprimante ou l'écran. Donc quand on dit qu'on va imprimer une image à 72 points par pouce ou à 300 points par pouce, ça va définir la taille en sortie, mais en aucun cas ça ne va modifier la taille en nombre de pixels. Alors Benoît, la profondeur de couleur maintenant ?
Moi, j'aime à penser à la profondeur de couleur comme étant l'autre résolution, celle dont on nous parle moins, celle dont les fabricants nous parlent moins parce qu'elle ne fait pas vendre de la même façon. Mais c'est simplement savoir avec quelle précision on code l'information de couleur et l'information de luminance. Donc on sait que les photos de nos appareils photo, elles sont codées en rouge, vert, bleu, trois couches. Eh bien, on va soit coder chacune de ces couches sur 8 bits, ce qui est le cas dans un JPEG par exemple. Donc ça veut dire qu'on a 256 valeurs de luminosité différentes par couche. Où on peut coder sur 12 bits. Et là, 12 bits, ça veut dire qu'on a 4096 intensités différentes. Donc on voit qu'en rajoutant simplement 4 bits, on augmente considérablement la précision. 14 bits ou 16 bits pour avoir encore plus de précision.
Ah, c'est le cas sur des scanners, on va au-delà de 16 bits.
Alors, on a vu pas mal de notions techniques déjà. C'est vrai que si on les regarde toutes en se disant « Oh là là, là maintenant je vais enregistrer un fichier, est-ce que je veux tel format ?» Si on doit se poser toutes ces questions à chaque fois, c'est impossible. Donc ce qu'on va plutôt faire, c'est identifier quelques cas d'utilisation tout à fait typiques. Et pour ces cas d'utilisation, proposer les choix qui sont raisonnables et expliquer pourquoi. Mais donc vous permettre là de vous dire « Tiens, mais c'est peut-être le choix standard, mais moi j'ai un besoin un peu spécial, donc je vais peut-être faire un petit peu différemment. » Et le premier cas, évidemment, c'est l'acquisition. Et là, l'acquisition, c'est assez simple. Si vous avez un appareil photo gamme en dessous des systèmes experts, vous n'avez pas le choix, c'est du JPEG. Avec un système réflexe ou un appareil expert, là, on a le choix entre RAW ou JPEG. Donc, JPEG, le gros avantage, j'aurais envie de dire à peu près le seul avantage, c'est le fait de stocker des fichiers beaucoup plus petits, ce qui, vu le coût qui n'arrête pas de baisser des supports mémoire et peut-être pas un avantage crucial, mais je ne vais pas re-rentrer dans le débat. L'avantage du JPEG aussi, c'est si vous avez des images qui ne vont nécessiter aucun traitement, et bien là, il y a un gain de temps. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Personnellement, j'utilise du JPEG dans un usage purement professionnel pour photographier des tableaux de notes et pour voir après les restituer pour la réunion suivante. Les tableaux ne changent pas, l'éclairage ne change pas. Donc une fois que j'ai mes réglages corrects, ben je sais que chaque fois que j'appuie sur le déclencheur, j'aurai strictement la même image. Et là, effectivement, je le fais en JPEG parce qu'on gagne du temps. Par opposition, le RAW fait gagner énormément de temps dès qu'on veut retraiter l'image, puisqu'on a conservé toute l'information du capteur. Les traitements qu'on va appliquer sur l'image vont beaucoup moins vite faire apparaître des défauts. Si les défauts apparaissent moins vite, ça veut dire que nous, on doit passer moins de temps à travailler sur l'image.
Oui, après l'acquisition, il y a le travail qu'on peut avoir à faire dans un logiciel d'édition. Donc, ça va être la phase de traitement, de développement. Et on parlait tout à l'heure du format PSD de Photoshop et on voit à quel point ce genre de format nous permet de travailler sans perte et d'avoir plusieurs itérations sur un même fichier. Évidemment, le contre-exemple, ça serait d'utiliser un format où on a à chaque fois des pertes, comme par exemple le format JPEG. Si on utilise le format JPEG comme format de travail, à chaque fois qu'on enregistre, on va perdre de l'information pour à la fin obtenir un fichier qui a priori va présenter des problèmes visuels assez marqués. Après la phase de travail, on peut penser à d'autres usages, comme par exemple l'échange des fichiers.
Alors, il y a deux cas de figure. Il y a le premier qui est effectivement, je passe ça à un collègue ou à un confrère, à un ami qui utilise le même logiciel que moi. On passe alors simplement le format propre au logiciel. Mais par contre, la difficulté apparaît quand on passe d'un système à l'autre. Le meilleur format, c'est sans doute TIFF, mais alors on va envoyer une image aplatie. C'est-à-dire qu'on va résoudre tous les calques, on va appliquer tout le traitement et on va obtenir simplement une image prête à être envoyée. L'avantage de TIFF, c'est qu'il peut être compressé, il va conserver le profil de couleur, il va conserver les métadonnées, donc on est certain qu'on passe le maximum d'informations, et comme on a appliqué tous les traitements, on est aussi certain que quand la personne va le rouvrir, elle le rouvrira prête à être utilisée. Alors après l'échange, on veut montrer ces photos, c'est la publication sur le web.
Effectivement, parlons de la publication écran, et quand on parle du web, évidemment, on a envie de gagner de la place, on veut compresser fortement nos images pour qu'elles passent rapidement, donc on va utiliser la compression JPEG. Alors, je peux vous donner un petit exemple. Dans mon usage personnel, quand j'utilise la fonction « exporter pour le web », par exemple, je règle cette exportation sur un niveau de 85% de compression parce que ce sont des photos que j'ai envie de mettre en avant. Donc, je compresse, oui, mais j'ai quand même envie de garder une certaine qualité. De ton côté, Benoît, pour déclencheur, je crois que tu utilises d'autres paramètres.
Alors moi, je compresse beaucoup plus, effectivement, parce que c'est un blog et donc l'idée, c'est que ça se charge vite. Je compresse jusqu'à 60% en fait pour les illustrations. Quand il y a du texte dans l'illustration, par exemple quand il y a un logo ou quelque chose comme ça, je compresse à 70%. Parce que 60%, là, les défauts commencent à apparaître sur le texte.
Et Benoît, tu me parlais d'un usage du format PDF aussi pour la publication à l'écran.
Alors oui, ça c'est dans un contexte professionnel. Donc je photographie des notes de réunion, etc. Et pour pouvoir distribuer de façon facile ces notes de réunion, je prends toutes mes photos et je fais un PDF. Là, l'avantage, c'est simplement d'avoir un fichier par réunion. Donc, c'est plus simple. On pourrait aussi imaginer, par exemple, un photographe de mariage, envoyer des photos de mariage au lieu d'envoyer plein de fichiers, ce qui peut être perturbant pour des utilisateurs qui ne sont pas passionnés par la photo. Je veux dire, c'est plus facile pour eux d'avoir un seul fichier qui correspond à un événement donné.
Alors, c'est exactement ce que je fais pour les galeries de photos qui sont envoyées dans le podcast de Rendez-vous Création.
Ah ben voilà.
Alors, on a parlé de la publication écran. Évidemment, il faut parler de la publication papier.
Alors, publication papier, ça peut vouloir dire des choses différentes. D'abord, il y a le fait d'envoyer à un labo. Il y a un compromis en fait à faire entre la taille du fichier et la qualité. Et généralement, ce qu'on va faire, c'est faire un JPEG qu'on va compresser très légèrement. Donc 90%, 80%, pas plus. Ce que je fais, moi, pour les alléger, c'est plutôt les redimensionner. C'est-à-dire, par exemple, comme maintenant, on a des appareils qui sont à 10 millions, 12 millions de pixels. Et qu'en final, quand on fait un 10-15... On a besoin de quoi ? C'est 3 millions de pixels, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment rien par rapport à ce que l'appareil prend.
Deux,
merci. Ce que je fais, c'est redimensionner l'image en 10-15, 300 points par pouce. Et ça me fait gagner en fait beaucoup, beaucoup plus de place que d'appliquer une compression forte. Par contre, il y a l'autre cas de figure qui est une impression à usage plus professionnel quand on envoie vers un imprimeur ou quand on envoie vers un labo pro. Et bien dans ce cas-là, on va plutôt privilégier le format TIFF ou le format PDF, de nouveau pour avoir une transmission sans perte en fait.
Ce qu'on peut rajouter par rapport à la publication papier, c'est une petite attention sur le profil de couleur. Je passe par le profil de couleur sRGB. À l'opposé, bien sûr, si on a en face de soi des professionnels qui savent gérer les profils de couleur, on aura tout intérêt à utiliser le profil de couleur Adobe RGB 1998. On peut avoir de très mauvaises surprises si on reste en Adobe RGB 1998 et qu'on envoie ça à un labo qui ne sait pas gérer les profils de couleur.
C'est le cas de la plupart. Et pire encore, Moi, comme je traite beaucoup de photos en Profoto RVB, j'ai une fois envoyé une série de photos par erreur sans avoir fait une conversion de profil. Elles sont revenues toutes vertes, en fait. Et ça nous laisse le dernier grand cas d'utilisation auquel on peut regarder, qui est l'archivage. Nos photos, elles ont de la valeur, et elles ont de la valeur dans le temps. Ce n'est pas comme un document bureautique qui devient inutile après quelques années, parce qu'il est périmé. Des photos dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, elles ont une valeur phénoménale. Se pose la question de leur conservation. Et là, on a la chance, en fait, Nicolas, c'est un de tes sujets de recherche. Et oui. Tu vas pouvoir nous expliquer ça en long et en large.
Voilà, alors je travaille un petit peu plus sur la musique contemporaine au niveau de l'archivage que sur les images, mais comme je baigne beaucoup dans les images, évidemment, on va pouvoir en dire deux mots, et on va pouvoir en parler en particulier par rapport aux usages dont on a parlé juste avant. C'est-à-dire qu'on peut bien sûr ne garder, ne conserver à long terme que le format de publication, par exemple ce qu'on a envoyé au labo, mais à ce moment-là, on se prive de pouvoir retravailler notre image. Donc, au fur et à mesure, on en arrive à se dire qu'on peut avoir envie de tout conserver, c'est-à-dire qu'on va garder notre original numérique, c'est-à-dire le fichier directement issu de notre appareil photo, le format de travail pour éventuellement retravailler nos images, et puis le format de publication pour avoir une vue directe du résultat qu'on a obtenu à ce moment-là. Et si on veut garder ça à long terme, ce vers quoi on va se diriger, c'est principalement les formats standards en opposition aux formats propriétaires, c'est-à-dire ceux qui donnent le plus de garanties aujourd'hui pour une bonne relecture dans 100 ans ou 200 ans. Et quand on regarde un petit peu les formats dont on a parlé juste avant, si on prend l'acquisition, on voit qu'on a en gros l'alternative JPEG RAW, et on avait mis le doigt sur le fait que les formats RAW, dans la majorité des cas, sont des formats propriétaires. Donc, il va falloir convertir notre image au format RAW vers le format RAW le plus standard actuellement, c'est-à-dire le format DNG. Après l'acquisition, on a le travail, et à ce moment-là, on a, par exemple, si on utilise Photoshop, un format PSD. Le format PSD, à long terme, on n'en connaît pas l'avenir, et donc on peut tout à fait passer dans un format TIFF. Ensuite, en ce qui concerne les formats d'échange et de publication, a priori, on va s'orienter à la base vers des formats standards, comme le format JPEG, ou le format PDF, ou le format TIFF. Donc a priori, de ce côté-là, il n'y a pas de souci.
Alors, moi j'ai une question par rapport à ça, et je profite puisque j'ai un spécialiste sous la main. Tout en ayant bien conscience qu'il y a un problème majeur avec les formats propriétaires, et donc qu'il y a un problème majeur au fait que les formats RAW, et dans mon cas c'est des formats NEF, soient des formats propriétaires, j'ai la conviction qu'un jour chez Nikon, quelqu'un va se rendre compte qu'ils ont commis une erreur, et donc j'ai l'espoir, la conviction qu'un jour les fabricants vont publier les spécifications de leurs formats. Et je me dis, par ailleurs, l'outil de conversion DNG, il existe, il est opérationnel. Rien ne m'oblige, a priori, à faire ma conversion DNG maintenant. Si dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, Nikon disparaît, il sera toujours temps à ce moment-là de faire la conversion DNG. Par contre, si dans 5 ans, Nikon, ou même avant, si dans 2 ans, Nikon se dit, tiens, mais on peut être meilleur que tous les autres, et on peut publier les spécifications de notre format, ça ne me paraît pas pertinent de faire la conversion maintenant. Je préfère attendre le moment où je serai forcé de la faire, avec l'espoir de ne jamais avoir cette situation. Est-ce que c'est raisonnable comme attitude ?
Alors, ça a du sens dans une certaine mesure, et en particulier dans ta situation. C'est-à-dire que tu es seul à faire tes propres photos, tu n'as pas 3000 appareils, tu gères de manière, j'imagine, très sérieuse tes images, tu sais où elles sont, tu sais à peu près combien tu en as, tu sais dans quel format elles sont, donc tu maîtrises tes médias. Du coup, tu peux en suivre l'évolution, donc tu peux suivre au fur et à mesure du temps la santé de ta photothèque. Si justement il y a un petit souci, tu sauras intervenir au bon moment. À l'opposé, si on prend un autre cadre d'utilisation qui va être beaucoup plus complexe, c'est-à-dire avec beaucoup d'appareils photo différents, avec beaucoup de logiciels différents, avec beaucoup de personnes différentes.
Une agence, par exemple.
Voilà, une agence avec beaucoup de disques durs différents, distribués dans plein d'endroits différents, éventuellement avec des DVD qui traînent à droite et à gauche. Dans ce cadre-là, si on veut maximiser l'usage des images pour pouvoir, si c'est le cas d'une agence par exemple, les revendre, à ce moment-là, on va vouloir maximiser la réactivité qu'on a par rapport à nos images. Et pour pouvoir maximiser cette réactivité, il faut qu'elle soit toujours prête. Et pour qu'elle soit toujours prête, on peut justement se baser sur des standards pour pouvoir en permanence livrer des standards.
Donc dans ce cadre-là, tu recommanderais plutôt de convertir en DNG très tôt ?
Voilà.
D'accord.
Et au fur et à mesure, construire sa photothèque à laquelle on va pouvoir accéder en permanence, très rapidement, sans avoir de manipulation particulière à faire.
Mais écoute, Nicolas, merci beaucoup pour ce sujet. Je sais qu'il y a pas mal de questions autour des formats, donc j'espère qu'on y a répondu.
Espérons, oui.
S'il en reste, vous les laissez dans les commentaires.
Et voilà.
Eh bien, Nicolas, on va retourner au salon de la photo, là.
Voilà, il y a les auditeurs qui nous attendent.
Allons-y.
C'est parti.
Troisième segment, vos commentaires et vos réactions. Pour laisser un commentaire ou un message d'encouragement, il suffit de visiter le blog www.déclencheur.com. Vous pouvez laisser un message texte complètement gratuitement ou un message audio en utilisant la boîte vocale. Tout d'abord, l'agenda. Pour les Parisiens amateurs de photos, le 29 novembre, la Lens Party, la sixième du nom, qui va être consacrée à une exposition photo. Pour les blogueurs belges, la deuxième édition du Yulbiz le 15 décembre. J'essaierai d'y participer, mais je suis pas certain que j'y serai. Et enfin, pour tous, le prix Pixelis, qui, je le rappelle, va démarrer du 1er au 31 décembre. Sur vos commentaires et réactions, d'abord de nombreux messages d'encouragement reçus de Franck Doyen, Godzilla, Nicolas Esposito, Gilles, Johan, Osbern, Abileb et Georges Dit. Merci à vous. Sur l'épisode reportage au studio photo, la deuxième rencontre avec Henri Rossier, vous avez été nombreux à réagir et globalement votre message est « on est vraiment content que cet épisode ait été monté ». C'est notamment le cas d'Arnaud, de Peter, de Vincent M, de Guillaume et de LLR. Henri lui-même a réagi dans les commentaires en disant qu'il appréhendait un petit peu cette diffusion, mais qu'il est heureux du résultat. Toujours aussi débrouillard, il ajoute une petite astuce. C'est vrai qu'à l'approche de l'hiver, les appareils peuvent souffrir du froid, en particulier les appareils numériques qui sont assez sensibles. En fait, la batterie est assez sensible au froid. Et donc Henri nous propose d'utiliser une petite chaufferette, comme les chasseurs ou les pêcheurs utilisent, pour le réchauffer. Visiblement inspiré par Henri Gaps, nous a fait un assez long commentaire avec d'autres astuces pour monter à faible coût son studio photo. Et par exemple, comment construire un support de fond avec des tuyaux d'évacuation. Je sais que c'est de l'autosatisfaction, mais je résiste pas au plaisir de vous lire l'introduction de son commentaire. Il dit qu'il a en fait toujours détesté écouter la radio, qu'il avait horreur de prendre le bus pour aller à l'école ou au collège à cause de la radio, ce blabla dépourvu d'images, et que franchement, Déclencheur et le système de podcast est en train de le réconcilier avec les sujets sonores, car au final, c'est lui qui fait la démarche d'aller chercher le contenu qui l'intéresse. Merci Gap, ça fait toujours plaisir de lire ce genre de choses. Pas mal de réactions également au Mini sur choisir son appareil photo numérique. Dans tous ces commentaires, j'épingle un thème, c'est le désir d'avoir un compact de qualité. Et c'est un message repris par Nitram, Roland Mellerio et Photoman. Et je les rejoins tout à fait, comme Henri Rossier d'ailleurs dans le Mini. On cite généralement le Ricoh GRD, le Canon G9. J'ai pas eu l'occasion de les essayer, donc je sais pas. Il est clair que le fabricant qui va résoudre cette espèce de quadrature du cercle, il va les vendre comme des petits pains, ces appareils. Enfin, sur ce même épisode, mais plutôt en réaction à l'intro, un commentaire de Benjamin Gauthier qui nous donne l'adresse d'un outil simple et gratuit pour réaliser des panoramas. Sur l'épisode avec Volker Gilbert, on a comparé toute une série de logiciels de développement RAW. Pep répond à son commentaire précédent. Il nous signale qu'il a été recontacté par DxO et qu'un compromis a pu être trouvé. Sur ce même épisode, HMJ nous conseille le logiciel PTLens, ou son équivalent Mac qui s'appelle Kekus, qui est un produit qui en fait des corrections optiques et d'après lui avec la même qualité de DxO, alors que PTLens est gratuit et Kekus ne coûte qu'une dizaine d'euros. Sur l'épisode hyperfocal, profondeur de champ et photo de famille, une réaction de Croucrou qui dit « j'utilise l'hyperfocal en photo de paysage, il m'était pas venu à l'idée de l'utiliser pour les photos de famille. La technique peut certainement être intéressante, mais avec quand même le bémol qu'on travaille plus au flash. » Geoffrey R. qui pose une question, il demande si l'hyperfocal correspond au réglage infini qui se trouve sur son boîtier compact. Non, parce que toute l'idée de l'hyperfocal, justement, c'est de pas faire le point à l'infini, mais de profiter de la profondeur de champ, c'est-à-dire du fait que la zone de netteté s'étend au-delà de la mise du point, donc en l'occurrence s'étend au-delà de l'infini, pour remonter la zone sur laquelle on fait le point, et donc avoir en final une zone de netteté plus étendue. Bernard Dutu demande si pour le cercle de confusion dans la formule du calcul de l'hyperfocal, on peut utiliser la même valeur qu'avec les films 24-36. La réponse stricte est non, il faudrait en fait le recalculer en tenant compte de la taille du capteur. Plutôt que de me lancer dans une longue explication théorique, je t'invite à visiter l'article que Wikipédia y a consacré. Et enfin, sur l'épisode filtre de densité neutre, Jean-Laurent demande si ce type de filtre permet d'éliminer les éléments mobiles d'une scène. Clairement, oui, c'est bien l'idée, puisqu'on va allonger le temps de pose, des éléments mobiles vont devenir des espèces de fantômes sur l'image et ne vont plus vraiment être très visibles. Il y a d'ailleurs dans la série des commentaires une très belle galerie qui démontre cette technique. Et enfin, Floudine qui me demande de faire plus attention aux liaisons pour ne pas écorcher ses petites oreilles. Sur l'épisode archivage, Eric répond à une question qu'il a posée il y a un peu plus d'un an, qui était comment modifier la date d'origine d'une photo scannée. Il nous signale que c'est maintenant possible en standard dans iPhoto 08. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous sur le blog www.déclencheur.com. L'abonnement à un podcast est complètement gratuit. Ça signifie simplement que vous recevez des épisodes automatiquement. On supporte de nombreuses méthodes d'abonnement. D'abord l'email, également iTunes et tous les agrégateurs RSS, et en particulier Google et NetVibes. Grâce au fil RSS, vous pouvez maintenant avoir Déclencheur sur votre page d'accueil Google. Je rappelle l'adresse avec toutes les informations techniques, www.déclencheur.com. Dans le prochain épisode, on parlera de la dérotisation avec l'équipe de DxO. À bientôt!